Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Au Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant de la RDC a fustigé l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert du M23. Le professeur Georges Nzongola a demandé au Conseil de sécurité d'exiger le retrait sans condition des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et d'autres parties de Rutshuru. Et puis, procès d'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Tanasio, les avocats de prévenus ont été déboutés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe hier mercredi et a rejeté la demande de la liberté provisoire par peur de fuite des prévenus à l'absence de résidence fixe ici à Kinshasa. Enfin, à Mbujimayi, 30 femmes et jeunes filles de provinces du Kasaï oriental, le Kasaï central et Kasaï suivent une formation sur les instruments juridiques de lutte contre la violence sexuelle. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal comme invité Maître Martin Daya, facilitatrice de cet atelier. Voilà tout pour les sommets. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le représentant permanent de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU a fustigé l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert du M23 depuis plus de 4 mois maintenant. Le professeur Georges Nzongola Ntalaja l'a dit ce mercredi au cours d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a aussi rejeté les allégations du Rwanda qui accuse la RDC de collaborer avec le FDLR. Dans ses recommandations, il a demandé notamment au Conseil de sécurité d'exiger un retrait sans condition des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru et de condamner fermement le Rwanda par une résolution. Il a ajouté que le Conseil puisse s'assurer que chaque pays de Grand Lac règle ses différends avec ses propres rebelles. On écoute le professeur Georges Nzongola Ntalaja énumérer quelques recommandations dans cet extrait proposé par Alain Irunga.
1. Le respect de l'intégrité et de l'intangibilité des frontières de la RDC. 2. Que le Conseil puisse exiger un retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 de la cité de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. 3. Que le Conseil de sécurité condamne fermement par voie de résolution la République du Rwanda pour son soutien au groupe armé M23. J'ai entendu presque tout le monde qui apparaît ici à déplorer cette occupation du Congo. Mais ce n'est pas en déplorant seulement qu'on va changer la situation. Il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que le Rwanda sache que la communauté internationale est sérieuse sur cette affaire. 4. Que le Conseil de sécurité impose des sanctions appropriées et plus sévères aux acteurs du M23 et au Rwanda qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans les Grands Lacs à travers cet activisme. 5. L'appui au processus de Nairobi. 6. Exiger de tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour rejoindre le PDDRCS et fournir un soutien plus accru au programme de PDDRCS.
Intervenant quelques minutes avant celui de la RDC, le représentant du Rwanda au Conseil de sécurité a lui fustigé la présence des FDLR dans l'est de la RDC et qui menace la paix et la sécurité de la région. Parmi ces multiples interrogations, il s'est demandé, entre autres, pourquoi le Conseil de sécurité ne condamne pas les États qui collaborent avec les FDLR, qui constituent également une menace pour le Rwanda. Et puis sur le terrain au nord qui vont plus bref, l'intensité des affrontements opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise a baissé depuis le début d'après-midi d'hier mercredi dans les territoires de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans la région, quelques tirs sporadiques étaient encore entendus sur les différents fronts jusqu'à peu plus tard dans la journée. C'est notamment sur l'axe Kabindi-Tiengerero, dans le groupement de Djomba, vers Musezero, dans le groupement de Busanza, et vers Tamugenga, dans le groupement de Bweza. Les sources de la société civile déplorent au moins 2 enfants blessés et 2 personnes tuées, dont un homme de 3e âge, dans ces combats hier mercredi, dans la zone de Rangira. Entre-temps, le caucus des députés nationaux du territoire de Masisi demande aux autorités militaires de déployer des militaires dans toutes les localités occupés par les groupes armés dans le secteur Osso-Banyungu, en groupement Nyamaboko premier. Cet appel fait suite au massacre des populations civiles dans les villages sous contrôle des groupes armés NDC Rénové, Nyantura et APCLS. Dans une déclaration signée par les 8 députés élus de Massissi le 23 octobre dernier, ils demandent à la justice militaire d'ouvrir une enquête sérieuse pour identifier, arrêter et juger les auteurs de ces crimes. Rosalie Zawadi.
Selon cette déclaration, les attaques contre les civils ont repris au mois d'août dernier dans les villages d'Enderembi, Moulema et Ngouloulou. Environ 42 personnes ont perdu la vie dans ces attaques. La dernière en date a été enregistrée vendredi dernier dans la localité d'Ngouloulou et a fait au moins 19 morts parmi les civils. Les affrontements entre ces groupes armés pourraient raviver les conflits interethniques des tristes mémoires dans les territoires des Massissi, préviennent ces élus. Ils alertent aussi sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent les familles qui ont été obligées de fuir ces affrontements qui durent depuis maintenant 3 mois. Tout en condamnant ces attaques, les députés nationaux élus des Massissi invitent toutes les communautés de ces territoires à œuvrer pour la cohésion, gage du développement socio-économique. Pour eux, il est hors de question que les communautés des Massissi soient rattrapées par les années sombres des conflits interethniques. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et on parle santé dans cette édition du journal. Plusieurs cas de choléra sont enregistrés dans la zone de santé de Mulongo, dans le territoire de Malembankoulou, province du Haut-Lomami, depuis le mois d'août dernier. Le gouvernement provincial et ses partenaires ont disponibilisé des intrants pour faire face à cette épidémie qui a déjà causé mort d'homme. La société civile locale plaide pour la multiplication des points de chloration d'eau et l'intensification de la sensibilisation de la population par les relais communautaires sur les mesures d'hygiène à observer. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
Le territoire de Malembankoulou compte 4 zones de santé qui sont Malemba, Mukanga, Luamba et Mulongo. Toutes ont notifié de cas de choléra. Cependant, la zone de santé de Mulongo est considérée comme le sanctuaire de cette maladie car les cas y sont notifiés d'une manière endémique. Les villages les plus touchés sont notamment Kafumbe, Kabi, Mulongo, Ngoya et Bukena. Plus de 80 cas ont été enregistrés avec plus de 5 décès. Certaines sources rapportent que d'autres malades sont morts dans la communauté car ne s'étant pas présentés dans les structures médicales pour une bonne prise en charge. Et plusieurs malades ont déjà quitté les centres de traitement et se portent bien, rassure le ministre provincial de la Santé du Haut-Lomami. Dans cette zone de santé, la résurgence du choléra s'explique par le fait que les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Elles consomment l'eau du fleuve et du lac Kabamba. Pour faire face à cette épidémie, le gouvernement provincial et ses partenaires ont disponibilisé des intrants pour cette zone de santé. D'après un membre de la société civile locale, la lutte contre cette épidémie recommande aussi qu'il y ait beaucoup de points de chloration d'eau pour éviter que la population ne continue à consommer l'eau impropre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis dans la province de la Tchopo, le bureau de l'UNICEF Kisangani plaide pour la prise en charge par les autorités provinciales de l'entrepôt déconcentré de conservation des vaccins et des autres produits de santé destinés à 8 provinces du pays. C'était ce mercredi à l'occasion de la visite que Madame le gouverneur a effectuée dans ses installations situées à environ 500 mètres de l'aéroport international de Bangboka. Ce dépôt régional de vaccins est le fruit de l'alliance entre Gavi et l'UNICEF pour une enveloppe globale de plus de 4 millions de dollars américains. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Depuis sa remise aux autorités en novembre 2021, l'entrepôt déconcentré de Kisangani fonctionne grâce à l'UNICEF. Cette agence onusienne pense déjà à se désengager. Il faut alors que les autorités provinciales se préparent à en assurer leur relève. C'est ce que justifie ce plaidoyer du chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, Mokhtar Khan, auprès de Madeleine Nikomba, gouverneur de province.
J'attends son appui en termes de plaidoyer, déjà pour que les factures d'électricité, la fourniture en électricité puisse se faire de façon correcte au niveau de cet entrepôt, mais également que le personnel administratif puisse être déployé dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour assurer la relève des partenaires.
Cet entrepôt est géré par le programme élargi de vaccination. Son fonctionnement ainsi que ses défis ont été portés à la connaissance de l'autorité provinciale, notamment l'insuffisance des moyens logistiques et les coupures intempestives du courant électrique au risque de détériorer la qualité des vaccins. Madeleine Nikomba a promis son implication afin d'y faire face.
Je pense que nous devons nous impliquer parce que aujourd'hui le hub appartient aujourd'hui à la province et c'est notre patrimoine. Vous n'avez même pas à faire de plaidoyer, mais c'est à nous vraiment de faire un effort et de travailler là-dessus pour qu'on puisse maintenir le hub à l'état.
Une visite guidée de cet entrepôt a sanctionné la fin de la visite de l'autorité provinciale dans ses installations. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, en justice, les avocats des prévenus au procès d'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio ont été déboutés à l'audience publique de ce mercredi par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe à la prison militaire d'Endolo. Pas de liberté provisoire accordée aux prévenus par peur de fuite en l'absence de résidence fixe à Kinshasa. Et le tribunal s'est déclaré compétent à connaître cette cause parce que, dit-il, les présumés assassins détenaient illégalement des armes et munitions de guerre. C'est l'essentiel du jugement avant dire droit rendu en rapport avec les exceptions soulevées précédemment par la partie prévenue. Maître Peter Ngomo, avocat de la défense, réagit au micro de Jeff Ngoy.
Ce n'est qu'une bataille, on n'a pas encore perdu la guerre. Hein. C'est bien que l'on ait commencé l'instruction en fond et c'est là où les vérités vont éclater parce que d'ores et déjà, on a posé la question sur les objets saisis. On n'a pas d'armes. Il y a des téléphones de celui qui a comparu, un des téléphones qui n'est pas là et autres. Bon, vous avez vu, entendu les ministères publics sembler minimiser un peu le fait qu'on n'ait pas retrouvé un des téléphones. Dit que non, mais c'est quand même un peu trop grave, d'autant plus que les téléphones est-il source d'information? On dit qu'ils étaient un assassin de malfaiteurs. Comment les prouver si on ne trouve pas les téléphones de l'un? Parce que dans ce téléphone, on pouvait bien trouver le numéro de ses autres associés si effectivement il y a un assassin de malfaiteur. Dans tous les cas, l'instruction continue. On va voir la suite pour la semaine prochaine. On est encore tout au début, donc on a encore beaucoup de prévenus à entendre. Et je sais que le débat sera houleux.
Au Kwilu, le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, en collaboration avec OCHA, a organisé du 25 au 26 octobre à Bandunduville une formation sur l'exploitation et les abus sexuels des travailleurs humanitaires. C'est là à l'intention de 30 participants, dont les acteurs des ONG nationales et internationales, de l'administration publique, des prestataires de la santé, de la police et d'autres. Pour les organisateurs, cette formation se veut celle de formateurs et formatrices pour créer un réseau qui va être outillé pour lutter contre ce mauvais comportement des acteurs humanitaires souvent constaté lors de leurs interventions dans les milieux en crise humanitaire. Irène Bouma.
La prévention sur l'exploitation et les abus sexuels, PAS des travailleurs humanitaires, tel est le thème de cette formation de formateurs organisée par les Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, à l'hôtel Vendôme à Bandunduville. Maître Bertrand Kabembela est le coordonnateur régional chargé de la prévention contre l'exploitation et les abus sexuels au niveau de cette agence des Nations Unies. Il explique ici l'importance de la dite activité dans cette ville qui, selon lui, fait face à une crise humanitaire occasionnée par l'insécurité de Kouamount.
L'objectif de cet atelier, c'est de préparer la réponse par rapport à ce que doit être le comportement des humanitaires. Nous voulons outiller pour avoir une base qui va continuer à faire ce travail-là. Il y a exploitation et abus sexuels lorsque les humanitaires qui viennent aider les bénéficiaires, il peut y avoir les inconduites sexuelles de la part des humanitaires qui peuvent abuser de leur position, tirer profit alors que l'aide humanitaire est gratuite. On commence à demander les faveurs sexuelles pour apporter cette aide-là, cela est réprimé.
Notez qu'au cours de ces assises, un numéro vert, à savoir les 49 55 55, a été mis à la disposition des participants pour dénoncer des cas d'abus sexuels des humanitaires. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Zéro enfant dans les mines artisanales à l'horizon 2025, c'est le défi que s'attelle à relever le ministère des Mines en RDC à travers le projet Combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cobalt en RDC. Les acteurs et partenaires de ce projet se sont réunis mercredi 26 octobre dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères en assemblée plénière ici à Kinshasa. Il était question de valider les systèmes de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. C'est le secrétaire général aux mines qui assume en même temps les fonctions du président du projet Combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de cobalt en RDC qui a présidé ces travaux. Jacques Ramazan estime qu'il faut donner un coup de massue en adaptant les stratégies de combat aux réalités du terrain. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
La Systema se propose à affirmer l'autorité de l'État auprès des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants pour atteindre nos objectifs. Nous nous sommes tous rendus compte que l'Assemblée plénière de ce jour a permis aux membres de la Systema de procéder à une auto-évaluation sans son présence des activités de cette structure. Cet exercice a valu son présent d'or, en ce sens qu'il a permis à tous et à chacun d'intérioriser les exigences des missions assignées à la Systema et à baliser pour l'avenir les orientations devant la conduire à l'atteinte de ses objectifs. Le plan opérationnel de cette stratégie est bien disant. Néanmoins, il s'est avéré au cours de l'analyse si haut évoquée que sa mise en œuvre n'a pas répondu aux attentes, d'où la nécessité d'un coup de massue pour engager la redynamisation de la Systema. Il nous faut prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire évaluer les stratégies sectorielles et son plan d'action en l'adaptant aux circonstances, évaluer la Systema, redynamiser nos activités et poser des actes concrets selon les actes stratégiques.
Actualité internationale.
En international, au Tchad, le couvre-feu instauré après des manifestations sanglantes est allégé. Après la répression des manifestations du 20 octobre dernier, le gouvernement a fait un geste en faveur de la population en repoussant l'entrée en vigueur du couvre-feu à compter du mercredi 26 octobre. Au lieu de 18h, il est désormais en vigueur à partir de 22h et jusqu'à 6h du matin. Une décision espérée, mais les Djaménois demandent plus.
L'invité.
30 femmes et jeunes filles venues des localités des provinces du Kassai Oriental, Kassai Central et Kassai ont suivi pendant 2 jours un atelier sur les instruments juridiques de lutte contre les violences sexuelles et outils de collecte des données sur les violences sexuelles. Le but de cet atelier organisé par le Fonds pour la femme congolaise est de pousser les femmes à briser le silence pour une meilleure prise en charge des victimes de violences sexuelles. Maître Martin Daya, facilitatrice de cet atelier, est notre invitée dans cette édition du journal. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina. Suivez.
Madame Martin Daya, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cet atelier, madame?
Les femmes de l'espace Kassai sont venues de partout ailleurs, surtout dans les 3 provinces du Kassai central, Kassai et Kassai oriental. Elles sont là pour renforcer leurs capacités sur les différents instruments juridiques de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Mais sinon, nous allons mettre plus l'accent sur la loi sur les violences sexuelles, cette loi qui punit les auteurs et aussi qui dispose des 16 formes ou les 16 infractions qui sont inscrites dans cette loi. Et les mamans doivent connaître cet instrument, mais aussi les autres instruments internationaux et savoir comment documenter les différents cas qu'elles rencontrent dans leurs communautés respectives.
Et quelles sont ces 16 infractions?
C'est beaucoup, hein. Il y a le viol, le harcèlement sexuel, l'attentat lapideur, la zoophilie, la prostitution forcée, grossesse forcée, en tout cas c'est beaucoup.
Vous parlez des outils de collecte des données sur les violences sexuelles. Quels sont ces outils, Madame Daya?
Ce sont les différents outils qui ont été mis en place par le ministère du genre en collaboration avec la coordination de l'UNFPA qui coordonne toutes les activités dans le domaine des violences basées sur le genre. Et ce sont ces outils-là qui ont été mis en place et mis aussi à la disposition des différents acteurs qui interviennent dans le domaine des VBG.
Ce sont des outils informatiques?
Non, ce sont des outils pour la meilleure prise en charge des victimes qui sont répertoriées dans une communauté ou par une structure.
Et après la collecte des outils, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, ce sont les différentes séances de sensibilisation que les femmes auront à mener dans leurs communautés respectives afin de ramener la population ou les femmes et les jeunes filles qui sont victimes de dénoncer et que la bonne prise en charge soit effective.
Quel est l'objectif de cet atelier?
L'objectif est que les femmes sachent qu'il y a des documents, qu'il y a des instruments juridiques qui les protègent, tant au niveau national qu'au niveau international, et qu'elles-mêmes soient au centre de l'action. Puisque nous avons beaucoup de statistiques selon lesquelles les femmes sont victimes parce qu'elles n'ont pas la connaissance des différents documents ou instruments juridiques qui les protègent.
Vous avez invité 30 femmes. Il n'y a pas de jeunes filles parce qu'aussi aujourd'hui, quand on parle de violences sexuelles, ce ne sont pas seulement les femmes âgées ou en âge de procréer qui subissent des violences sexuelles. Il y a aussi bien évidemment des jeunes filles. Pourquoi n'avoir pas associé les jeunes filles à cette formation?
Nous les avons associées. Il y a des jeunes filles qui sont venues des Lupatapata, elles sont là. Il y a aussi des jeunes filles qui sont venues des Demba, Kazumba et même à Chikapa, on a des jeunes filles. On ne les a pas oubliées. Quand on parle de violences basées sur le genre, on voit toutes les catégories de personnes. Mais comme nous nous focalisons sur le droit des femmes, nous associons aussi les filles puisque l'un ou l'autre jour elles deviendront femmes.
Est-ce que vous avez associé dans cette formation l'aspect judiciaire? C'est au niveau de la justice qu'on connaît beaucoup de problèmes où un bourreau est dénoncé et des fois on les libère. Est-ce que cet aspect a été pris en compte pour que les femmes aujourd'hui, lorsqu'elles dénoncent, mais que le bourreau soit donc puni?
Il faut reconnaître qu'il y a une avancée significative, hein, surtout au niveau du Kassai central. Ici au Kassai oriental, on lutte encore. On n'est qu'au début, puisque je vous annonce qu'il y aura des chambres foraines qui seront organisées dans le Kasaï central. Mais dans le Kasaï oriental, nous sommes en train de voir hein, comment faire intégrer la partie juridique ou judiciaire avec les différents intervenants dans ce domaine, qui sont les OPJ, les magistrats, ainsi que tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine juridique ou judiciaire en ce qui concerne les violences basées sur le genre.
Maître Ndaye, je vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Mise en onde de Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers le pays sous la coordination de Richard Junior Kamunga et la supervision d'Alain Irung Mushinge. Merci de nous avoir suivis.